Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ses références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, salam, azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de Au cœur de l'islam, un rendez-vous hebdomadaire que vous propose Radio Alger Chien 3 tous les vendredis à 5h et à 14h, un programme qui nous informe, qui nous éduque et qui nous booste en nous donnant les clés pour devenir meilleurs et pour s'offrir toutes les opportunités à être minas su'ada et éviter le grand désarroi et la faillite de l'être humain. Qui des musulmans ne connaît pas cette sourate, la 103e sourate du Livre Saint de Dieu? De l'âge de 5-6 ans à l'adulte et aux personnes âgées, tout le monde a lu, ne serait-ce qu'une seule fois, sourate l'Asr, où Dieu subhanahu dit « Wal asr inna l'insana la fi khusrin illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. » Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
Tout est résumé dans cette sourate, Kamel Shekat.
Vous savez, l'imam Shafi'i disait, si Dieu n'avait révélé aux croyants que cette sourate, elle leur aurait suffi. Il y a un code dans cette sourate. Wal asr. Déjà, ça commence par un serment. La majorité des exégètes sont d'avis que le mot asr ici désigne le temps dans sa globalité et non salat al-asr. Salat al-asr. Par rapport à la marche du temps, c'est une heure quand même qui est assez spéciale dans la mesure où c'est l'aube pratiquement de la fin des temps. L'asr est annonciateur du crépuscule, donc de la fin de la journée, et à partir de là, l'asr pourrait être vu comme l'annonce même de la fin du monde. Nous pensons qu'il y a des versets qui ont été abrogés dans cette sourate, ayatun nusikhat. L'imam Ali, karramallahu wajhah, selon certains, lisait « wal asri ». Ici, Dieu subhanahu wa ta'ala jure par le temps et par les crises qui peuvent justement survenir au cours de toute une vie. Inna l'insana la fi khusr, ça veut dire que tout le monde pratiquement est en perdition, sauf une catégorie de gens qui va se conformer à un code éthique en quatre étapes. Illa alladina amanu, donc ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, ont accompli les bonnes œuvres. Ce qui veut dire ou ce qui signifie que la foi en elle-même ne suffit pas si elle n'est pas traduite par un bon comportement. Ensuite, au-delà de cet engagement vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a l'aspect sociétal de la religion. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ça veut dire que les gens vont devenir solidaires quant à se conformer à la vérité, faire de la vérité leur seule quête. Ils vont donc tous s'allier pour suivre la vérité, faire de la vérité leur leitmotiv, quelque chose qui va faire l'essentiel de la vie d'ici-bas.
La quintessence.
Ensuite il est dit wa tawasaw bil sabr. Ça veut dire que Cette voie que devraient choisir les croyants, elle n'est pas facile. Elle va nécessiter de chacun d'eux de l'endurance. Nous sommes vraiment dans un code éthique, dans un code qui va symboliser la foi autant en termes de croyance, mais aussi en termes de comportement. Et la chose ne se fait pas au niveau de l'individu ou de manière individuelle. Elle doit se faire sur un plan collectif.
Kamashekat, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle, ésotérique de cette sourate et puis l'Asr? Pourquoi Dieu subhanahu jouerait par l'Asr, par ce temps précis de l'après-midi? Et puis, est-ce que l'Asr ne voudrait pas dire pression, comme on presserait un juge? Je me rappelle ma mère, la Yerhamha, au moment de faire la salat l'Asr, disait « Yarbim ta'assarhash alina ».
Il y a énormément d'avis concernant l'Asr, le mot « Asr » ici. Certains disent que c'est le temps, c'est l'avis pratiquement le plus consensuel. D'autres disent que c'est l'après-midi, donc l'annonce même du crépuscule qui est d'un point de vue purement allégorique, donc l'annonce même de la fin de la journée. Et ici, ça pourrait être l'annonce de la fin des temps. Mais bon, l'Asr, comme on presserait un fruit, parce que je n'ai jamais lu ça.
J'ai lu dans une exégèse assez quand même ésotérique où l'auteur parlait d'une pression du temps.
Oui.
Il disait qu'à chaque moment, chaque instant, il y avait une pression du temps.
Oui.
Comment est-elle cette pression du temps? Par rapport aux difficultés de la vie, par rapport au qabd et au bast, par rapport à quoi exactement?
Il y a énormément de choses, surtout vers la fin des temps. Quand vous savez que le prophète, alayhi salatu salam, disait de celui qui serait conforme au décret de Dieu, il serait à l'image de quelqu'un qui tiendrait dans le creux de sa main une braise. Vous imaginez la pression. Tout ce que nous vivons actuellement comme tragédie. Avec les doubles standards de l'Occident, qui est puissant, qu'on le veuille ou non, nous sommes en train d'assister à la naissance. Bon, nous parlons généralement dans notre émission du gouvernement de Lucifer, le gouvernement du diable, mais cette perte de valeur, cette perte de sens, au niveau même de toute l'humanité, c'est quelque chose qui fait, c'est effrayant.
Est-ce que ce n'est pas une allusion au temps qui passe très très vite et donc à cette vie très éphémère?
Oui, ça pourrait l'être aussi, bien entendu. Parce que le temps, il passe très vite. Et personne ne se rend compte de la préciosité du temps. Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens négligent. La santé, la bonne santé et le loisir, c'est-à-dire quand on a du temps libre. Et on ne se rend compte du temps que lorsqu'il disparaîtra. Quand la vie, quand la mort survient, c'est là qu'on se rend compte du temps. Et d'ailleurs, قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّيَ أَصَدَّقُ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ dans sourate Al-Munafiqun. وَأَنْفِقُوا مِنْ قَبْلِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ça veut dire que même quand les gens reviendront, s'il leur était permis de revenir sur terre dans la vie d'ici-bas plutôt que d'aller vers Alam al-Barzakh, beaucoup ne perdraient pas de temps à accomplir une prière pour mourir en état de prosternation. Non, la majorité voudrait accomplir un geste qui a une portée sociale. Et dans ce cas précis, le Coran nous le dit. Vous n'aurez plus Dieu pour la prière, mais beaucoup plus pour ces gestes auxquels vous ne prêtiez aucune attention quand vous étiez dans ce monde, à savoir aider les autres. Et ce qui est bien dans cette sourate, c'est que elle passe d'une activité qu'on attribue à la religion, ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires ou les bonnes œuvres, et puis se conseillent mutuellement le bien et se conseillent mutuellement la patience. Ceci est la traduction de Jacques Berck, et donc il faudrait, avec ce travail que devraient faire les gens sur eux-mêmes, il faudrait se conseiller mutuellement à faire preuve de patience et d'endurance, parce que c'est un chemin qui est pavé de tout ce qui pourrait vous inhiber d'agir dans ce sens.
Un serment par le temps et le hadith du prophète alayhi salatu wasalam où il dit « Shay'ani marbounun fihim al-insan
al-waqt ».
Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation, une corrélation entre ces deux choses, la santé et le temps? Je ne pense pas qu'il l'ait dit de façon fortuite.
Le point commun entre les deux est que Ce sont là deux éléments, deux valeurs, deux choses qui obéissent à un cycle ou bien à une courbe. Il y a la partie ascendante, et quand la courbe atteint son pic et qu'elle commence à faire sa descente, vous ne pourrez plus jamais revenir à l'état initial, à un état qui était antérieur à celui qui est le vôtre au moment même où vous vous en rendez compte, ou bien au moment où vous prenez conscience que ça commence à disparaître. Mmh. Ça, c'est un point commun entre les deux.
La conscience au temps.
Oui, absolument.
Chose qui nous fuit.
Oui, absolument.
Très ancré dans la philosophie japonaise, à travers le wabi-sabi. Je lisais dans un article quelqu'un qui disait « Si on avait cette conscience au temps, on aurait eu notre fameux khushua dans la salade. »
Peut-être,
Tout est question de conscience, finalement.
Bien sûr.
Alors, « Kamashikat, wal asra innal insana lafi khusrin, illa ladina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bil sabr. » Ici, nous avons les clés ou les quatre conditions du salut.
Oui, croire. Agir en fonction de cette croyance, c'est-à-dire en conformité avec la foi. Ensuite, se maintenir sur cette trajectoire en se conseillant mutuellement le fait de rester sur le droit chemin. Et ensuite, en se conseillant mutuellement de faire preuve de patience et d'endurance, parce que la chose n'est pas aisée.
Un exercice qu'on pourra vraiment réussir durant les 10 jours ou les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Vous ne pensez pas?
En tout cas, ce sont des jours qui sont frappés par une grâce qui fait qu'ils sont propices justement à cette conformité souhaitée quant à suivre justement ce cheminement.
Ce sont les meilleurs jours de la vie ou de l'année?
De l'année.
Du moment qu'on est en vie, on pourrait en profiter,
oui,
et s'exercer à devenir meilleur justement. L'iman, il est là, peut-être qu'il faudrait l'améliorer. De quelle façon, Kamal Chakat, puisqu'il fluctue comme la bourse, malheureusement.
Emmanuel, absolument. C'est un point sur lequel il y a consensus dans la communauté théologienne de l'islam. La foi, elle augmente par les bonnes œuvres, elle diminue par le fait de se laisser aller à ne rien faire, par le laxisme, par
l'absence de conscience.
Absolument. Absolument.
Il est ladina amanu amilu salihat. Durant ces 10 meilleurs jours de l'année,
oui,
on est tenu d'apporter certaines œuvres, de bonnes œuvres, notamment l'aumône, le jeûne.
Le jeûne,
le dhikr.
Oui, d'ailleurs, c'est dans ces jours-là, comme le dit si bien le hadith, yawmu arafa wa yawmu nahri. Donc le jour de arafa, le jour du sacrifice, wa yawmu tashriq, les jours où l'on met la viande à sécher. Aïduna Ahlul Islam, c'est notre fête communauté de l'islam. Ce sont des jours de nourriture, de breuvage et d'évocation de Dieu. Donc toutes les bonnes œuvres, vous allez les retrouver pendant ces 10 jours. Par exemple, quand vous parlez du mérite du jeûne du jour de Arafa, quand le messager de Dieu a été interrogé sur son mérite, qu'est-ce qu'il a dit ? Ahtasibu min Allahi tabaraka wa ta'ala an yukaffira. L'âme al-mardi ou l'âme al-muqbil. J'attends de Dieu ou je compte sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde de Dieu pour qu'il absolve l'année dernière, l'année passée et celle à venir. Et là, comme nous l'avons déjà expliqué, alors les gens vous disent, attends, tu vas jeûner ce jour et puis tu feras ce que tu voudras, tes péchés seront... Non, pas du tout. Ça n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous jeûnez en y mettant le cœur, ce jour de Arafa. Cette grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala fera que vos péchés passés durant l'année qui s'est écoulée seront absous, seront effacés, et Dieu vous maintiendra sur une trajectoire, sur un cap, dans un état spirituel qui fera que vous ne ferez pas d'erreur dans ce qui va s'écouler de l'année à venir. Donc ça rejoint un peu ces 4 versets. Donc il y a la foi suivie d'un comportement qui va la traduire, qui va la matérialiser, la personnifier en quelque sorte. Et ensuite il y a cet état de conscience qui vous maintient justement dans cette trajectoire. C'est ce que veut dire justement ce hadith. C'est-à-dire que je jeûne aujourd'hui, je jeûne le jour de Arafa, ça va effacer mes péchés passés, ça va m'aider à être, on va dire, en conformité avec les décrets de Dieu durant l'année en cours. Et puis viendra Arafa prochain, ou cette année où j'ai normalement bien agi, donc là, l'absolution sera encore plus que facile, plus que nette, et ça va encore m'aider beaucoup plus dans l'accomplissement des bonnes œuvres pour l'année à venir. Ce faisant, je ne pourrai que m'améliorer. Et ça vous maintient justement dans les quatre étapes, dans ce cheminement que propose Sourate l'Asr. C'est un contrat social en quelque sorte.
C'est un contrat social, mais ça nous met face à une réalité, Kamal Chakot. Nous ne possédons rien, mais le temps peut être un capital pour l'être humain.
Absolument.
Parce que s'il utilise à bon escient ce temps...
Il peut le capitaliser pour l'au-delà.
Exactement.
Oui.
Et puis, il y a ces rappels, ces rendez-vous continus de Dieu Subhanahu, Ramadan, les 10 meilleurs jours de l'année, donc Dhul Hijjah. Pas mal de
Muharram,
rendez-vous, on en parle
assez
souvent.
Vous avez Arafat, vous avez Ashura, vous avez les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, vous avez énormément de jours. Autant de stations tout au long du camput qui font que voilà, vous pouvez vous rapprocher autant que faire se peut de Dieu, parce que ce sont des moments qui sont propices à ce rapprochement.
Dieu, Kamal Chakot, dans cette affaire, est plus conscient que l'être humain de ce qu'il a à perdre et à gagner.
Absolument.
La preuve, c'est rendez-vous. Et puis, c'est une façon de nous offrir des thérapies contre Dunya et l'illusion du monde matériel pour une meilleure conscience de l'essence spirituelle.
Absolument.
C'est une façon de nous remettre à l'essentiel, au spirituel.
Le problème, c'est que ça ne nous remet pas ou ça ne nous renvoie pas à l'essentiel.
Ah bon?
Oui, tout le problème est là. Parce que justement, il y a une absence de conscience. Ces moments-là nous rehaussent, nous remettent sur des rails. Ça nous replace dans le cadre qui est le nôtre ou qui était le nôtre initialement.
Mm-hmm.
Normalement, chacun de nous a cette image en tête. Vous avez vu les gens en train d'évoquer Dieu ou bien les enfants dans les kutab, dans les écoles coraniques, en train de réciter le Coran. Mm. Vous avez vu comment ils sont en train de balancer comme ça. Et ça rappelle les bourgeons d'une plante quand ils sont en train de bouger comme ça pour aller vers le haut. Certains de nos savants nous disent c'est l'âme qui fait ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'elle aspire à opérer cette transcendance qui devrait la rehausser, la propulser vers ces stations ô combien élevées dans lesquelles elle se trouvait avant même de se retrouver dans cette enveloppe charnelle. Nous savons que les âmes étaient dans une dimension spéciale. Je vous laisse imaginer le bonheur, le sentiment,
primordial.
Oui, le sentiment de plénitude dans lequel se trouvaient ces âmes avant de venir dans cette prison qui est l'enveloppe charnelle, qui est le corps humain.
D'ailleurs, dans la philosophie de Jalaluddin Rumi, il dit que les moments de qabd que vit l'être humain, c'est lorsqu'il y a un rappel des choses qu'on a vécues lorsqu'on n'était que poussière.
Oui.
Et c'est cette coupure qu'il y a eu entre donc le monde des cieux et celui de la terre.
Oui, enfin lui, il utilise le mot poussière, mais est-ce qu'on était poussière?
Roh,
tout simplement.
Oui. Plus, poussière, c'est moi qui l'utilise.
Oui, l'âme est un élément subtil. On ne sait pas de quelle matière c'est fait. Mais en tout cas, avec le développement des sciences, certains pensent que même l'âme, elle est quantifiable.
Donc la perte du temps, la perte de ce capital de l'homme, l'unique capital, forcément nous mènerait à notre perte éternelle.
Oui. C'est-à-dire que, voilà, la notion du temps, elle est hyper importante dans la mesure où ce temps que vous allez perdre ici, ou que vous allez utiliser à mauvais escient, le problème est que vous allez le subir dans l'au-delà, mais dans une logique d'éternité. Il est là le problème. Vous exploitez votre temps à bon escient. Dans l'éternité, vous allez jouir de ce temps. Vous l'utilisez à mauvais escient. Dans l'éternité, dans la vie éternelle, vous allez subir les conséquences.
Donc, l'adina amanu, c'est la foi. On a dit qu'elle n'était pas quantifiable, qu'elle n'était pas palpable. Elle fluctue.
Oui.
Et c'est une expérience du cœur.
Oui.
On pourrait l'améliorer, l'élever ou la relever avec les bonnes œuvres. La période de Dhul Hijjah est une excellente période.
Absolument, qui est propice à cela.
Recommander la vérité, tawassaw bil haqq, Kamal Chakot, ou comment vous pourriez le traduire, vous, dans votre livre, par exemple, avec Monsieur Boudounoun, dans la traduction du Coran?
Nous avons mis « s'enjoignent mutuellement à la vérité, ou s'enjoignent tout simplement à la vérité, j'ai oublié. Mm-hmm. En tout cas, c'est un travail qui se fait au niveau du groupe, de la communauté. Parce que, bien sûr, il est bien beau d'être conforme au décret de Dieu tout seul, mais à quoi cela sert-il si vous ne jouez pas votre rôle dans la société? Si ce que vous considérez comme étant bien pour vous, vous ne le partagez pas avec les autres, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre esprit, il y a un problème en vous. Au minimum, on peut qualifier ça d'égoïsme. Comment faire pour que ce que vous vivez pleinement et qui vous met dans un état de grâce avec Dieu, pourquoi ne pas faire en sorte que tout le monde le vive? Donc, il y a justement tout un travail qui se fait au niveau de la communauté pour que tout le monde rallie cette voie de la rectitude, cette voie qu'on appelle le droit chemin. Ensuite, une fois que tout le monde est placé sur ses rails, il faut se rappeler en continu que voilà, il va falloir faire preuve d'endurance, parce que la tâche n'est pas du tout aisée.
Tawassaw bis sabr. Oui. C'est recommandé la patience. Mais ce mot vérité, Kamel Chekat, certains parlent de tafsir, d'autres parlent de ta'wil. On parle d'exégèse ésotérique et d'une autre exotérique, celle qui est à la portée de tout le monde.
Oui.
La vérité, c'est bien sûr ordonner le bien et abhorrer le mal.
De manière générale, oui.
Mais il y a l'haq, le vrai, cette essence.
Ce qui est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui-même qui le dit, Dieu ne charge une âme que selon sa capacité. Alors, dans le domaine religieux, nous avons ce fameux hadith de Jibril qui nous parle de l'islam, qui nous parle de l'iman, la foi, et qui nous parle du bel agir, l'ihsan. Est-ce que vous pensez que tout le monde est en mesure d'atteindre cette troisième station qui est le bel agir? Elle n'est pas du tout aisée.
Il faudrait d'abord le connaître.
Oui, ça n'est pas du tout évident. Donc vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que pour peu que vous soyez conforme à l'islam, à l'image de ce bédouin arabe qui est venu dire quels sont mes devoirs en tant que musulman. Et voilà, donc tu crois, tu fais profession de foi, tu accomplis ta prière, tu jeûnes le mois de Ramadan, tu t'acquittes de l'aumône légale si tu en as les moyens, et puis tu accomplis ton pèlerinage, là encore, si tu en as les moyens. Et il dit, par Dieu, je n'ajouterai rien à cela. Et au messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, de dire, fi ma'na ma qal, la in sadaq Allah, quelque chose comme ça en tout cas, s'il respecte cet engagement, il ira au paradis. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que maintenant la vérité c'est quoi? La vérité c'est que vous êtes sur cette terre pour une mission.
Qui est?
Qui est de la première chose au bas de l'échelle, c'est « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ». C'est-à-dire vouer un culte à Dieu. Ensuite, pour ceux qui prennent conscience justement de leur existence et du temps qui défile, c'est la lieutenance de Dieu sur terre, l'istikhlaf. Chacun va jouer ce rôle selon la capacité que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Ce qui est bien donc, comme je le disais, c'est que Dieu ne va pas vous acculer, vous destiner à des tâches qui vous dépassent. Et à partir de là, comme le dit si bien ce fameux hadith du messager de Dieu, « Al-halal ubayyin wa al-haram ubayyin ». Le licite a été clairement défini, l'illicite a été clairement défini. Entre les deux, il y a des choses équivoques. Quiconque s'en détourne a blanchi sa foi. Donc il faut rester dans cette logique. Il y a des gens qui sont capables d'accomplir des tâches hautement délicates. Il y en a d'autres qui jouent leur rôle au niveau même de leur quartier, de leur petite famille. Et ça suffit. Si les gens, justement, faisaient de cela, c'est-à-dire jouer leur rôle, par exemple, à l'heure actuelle, jouer son rôle de père, de parent, comme il se doit, ça devient déjà difficile. C'est une tâche ardue. Donc, nous, qu'est-ce qu'il est attendu de nous? C'est de commencer déjà par jouer ce petit rôle ou ces petits rôles qui sont les nôtres dans cette vie d'ici-bas, en sachant que accéder au paradis ne pourra se faire que par la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nul n'accédera au paradis par ses œuvres, comme l'a dit le messager de Dieu. Même pas toi, ô messager de Dieu, même pas moi, à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. Vous savez, la chose, elle est facile. C'est comme ce sahabi qui est venu poser une question au messager de Dieu, disant, voilà, indique-moi une œuvre qui me fera accéder au paradis. Il a demandé le summum. Sur une chose hautement importante. Mais qui est cependant facile pour qui Dieu l'a rendu facile? Donc aller vers cette facilité, et puis c'est cette facilité, c'est le fait de mettre le pied à l'étrier qui va vous permettre d'accéder sur cette échelle de difficulté, palier par palier, jusqu'à atteindre l'excellence. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand vous faites quelque chose de bien, vous ne le faites que parce que Dieu vous y a aidé. Et le jour du jugement dernier, si vous recevez un salaire sur cette bonne action, eh bien, sachez-le, c'est cette grâce de Dieu qui vous permet de recevoir ce salaire. Parce que si Dieu mettait nos œuvres face à ses bienfaits, nul d'entre nous n'arriverait à avoir de salaire. Ghalaba dirhamun mi'ata alfi dirham. Un dirham l'a emporté sur 100 000 dirhams. Un homme riche qui va donner du surplus de sa fortune, mais il va donner vraiment beaucoup. Et un autre qui n'a pas grand-chose, il a 2 dirhams en poche ou mis de côté dans une tirelire, il va en prendre un et le donner. Il a, qu'on le veuille ou non, il a donné 50% de sa fortune. Et c'est ainsi que ça marche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce que nous pourrions avoir le jour de la résurrection, nous ne l'aurons que par cette grâce de Dieu. Et à partir de là, les choses deviennent un peu plus faciles. Du moins, c'est ce que je pense.
Vous êtes donc au cœur de l'islam. Merci de nous accompagner tous les vendredis à 5h et à 14h dans ce programme où nous faisons une immersion dans les choses de la religion, mais aussi dans notre âme. Kamel Shakat Abul Hassan Shadouli disait, lorsque Dieu a créé la terre, celle-ci a chancelé. Dieu l'a alors affermie par les montagnes. De même, lorsqu'il a créé l'âme humaine, celle-ci s'est troublée. Il l'a également affermie par les montagnes, par l'aql. La raison. N'importe quel homme qui possède suffisamment de raison et reçoit assez de lumière peut être habité par la grande paix, Sakina, venant de son Seigneur. Son âme cesse alors d'être ébranlée et place totalement sa confiance dans celui qui régit les causes secondes. Kamel Shakat, vous disiez juste avant cette petite respiration musicale que la chose est facile, que l'accès au paradis pourrait être facile. Les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam disent pratiquement la même chose. Innakum latujarruna ila al-jannati bis-salasil. Il a dit aussi kullukum yadkhulu al-janna illa man aba.
Oui, sauf ceux qui n'ont pas voulu. Oui.
Mais il a aussi dit kullun muyassarun lima khuliqa lahu kama shakal.
Quand vous dites kullun muyassarun lima khuliqa lahu, ça veut dire que, par exemple, croire en Dieu, ça n'est pas une chose facile. N'importe qui ne peut pas arriver à cette prise de conscience du divin comme ça facilement. Et c'est pour cela qu'actuellement, avec l'avancée des sciences, on se rend compte que l'homme a été programmé pour croire en Dieu. La chose, pratiquement, la chose est tellement difficile que Dieu a fait en sorte qu'il y ait des moyens, des canaux, des choses qui vont faciliter cette foi ou cette reconnaissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce cadre que s'inscrit ces propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Kullun muyassarun lima khuliqa lah ». Chacun se verra faciliter la voie vers ou pour la mission qui lui a été dévolue. Croire en Dieu est l'une des missions de l'être humain sur terre. Alors certains vous diront, oui, mais attends, on ne,
donc c'est ce qu'il faudra
Dieu,
penser.
C'est, ce Dieu, nous ne le voyons pas, il n'est pas visible, il n'est pas perceptible. Et non, Dieu, subhanahu wa ta'ala, vous a donné des facultés mentales, un cerveau, une conscience pour arriver justement au divin. Ce qui est bien, c'est que Ibn Tufayl l'a démontré, c'est-à-dire qu'on peut arriver à reconnaître Dieu ou à croire en Dieu par la raison pure. Même si, quand nous parlons, nous, de Hidayah, de guidance, et là encore, le premier palier qui est l'un des plus importants, enfin, la guidance, déjà, il y a ce programme initial que nous appelons le fitra. Ça rejoint ce qu'a dit Sidna Moussa alayhi salam dans son dialogue avec Pharaon. Qala wa man rabbukum ya Moussa kekeli. Quel est donc votre seigneur au Moïse? Qala alladhi a'ata kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Celui qui a donné à toute chose sa nature primordiale, puis l'a guidé. Les êtres humains, les êtres vivants, quel que soit l'être, qu'il s'agisse d'animal ou de petites créatures, de végétales, chaque être animé d'une vie va jouer son rôle pleinement sur cette terre. Ensuite, lui, il parle de quatre paliers de guidance. Arba'at anwa' min al-hidaya. Il parle aussi de hidaya tout tawfiq. Fa'ama man a'ta wa taqaw saddaqa bil husna. Celui qui agit, donne, dépense des biens que Dieu lui a donnés, nous lui faciliterons la tâche vers le chemin du salut, c'est-à-dire la meilleure des voies. Contrairement à lui, celui qui agit mal, il se verra entraîné vers une voie qui ne lui sera pas du tout bénéfique le jour de la résurrection. Il y a un autre palier qui m'échappe,
l'ilham.
Mais le quatrième, c'est l'ilham. Et là, on revient à la raison pure. Ibn al-Qayyim, quand il parle de cette station, de cette position, il dit, ça c'est ce que Dieu accorde aux penseurs, aux philosophes. Vous voyez, donc il a parlé des philosophes, hein, al-falasifa. Et nous avons tout ce beau monde de l'islam sclérosé qui, voilà, oui, non, salaf, le salih, les pieux prédécesseurs et j'en passe, qui néglige ces propos d'Ibn al-Qayyim, qui pourtant est une icône de cette mouvance qui se dit salafi. Alors qu'ils sont salafiyatou minhum bara ala kulli hal.
Il y a tout un débat actuellement sur les réseaux sociaux, Kamal Shekat, hein, par rapport au tawhid, le découpage de Ibn Taymiyyah, le tawhid.
Oui.
Introduit d'ailleurs dans les manuels scolaires, hein.
Oui, mais attendez, tawhid rububiyya, par exemple, moi, ça me pose problème dans la mesure où je vois mal comment est-ce qu'il y aurait un point commun entre moi et un paganiste pour peu qu'il reconnaisse l'existence de Dieu en tant qu'entité divine, en tant que divinité. Ça peut poser problème. Mais de là aussi à en faire tout un plat, je suis désolé. Hein. Nous sommes à côté de l'essentiel. Cette notion de salafisme, moi je le dis aux gens, un salafi, moi mon islam, d'où est-ce que je suis en train de le... D'où je l'ai puisé? Le fait que les gens soient conformes à ce que faisaient les premiers musulmans, c'est-à-dire les compagnons, les successeurs et ceux qui les ont suivis. As-sahabatu wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Le problème, c'est que nous ne sommes pas là pour combattre le salafisme quand il est bon. Revenir vers l'origine, vers l'essence même de l'islam, c'est quelque chose qui est plus que souhaité. Mais le problème avec les êtres humains, c'est que quand vous étudiez l'histoire du droit canon de l'islam, tarikh tashri' al-islami, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que quelqu'un est venu pour rappeler les gens à un principe qui fait consensus, c'est dans le consensus que cette personne ou que ceux qui le suivaient ont commencé à défragmenter cette nation. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui fait consensus pour créer la discorde, pour semer la discorde. Et ça n'est pas bon. Parce que maintenant, ici en Algérie, beaucoup vous parlent de l'marji'iyya, le référent religieux. Et on vous dira, on va répéter ce que disait Ibn Asher, fi aqd al-ash'ariyyi wa fiqh Malik wa fi tariqati al-Junayd al-Salik. Ça veut dire que l'école dogmatique, la madrasa al-fikriya ou bien al-aqadiyya, c'est la madrasa al-ash'ariyya, l'école ash'arite, qui est très très bonne, mais dont certains membres ont connu des déviations qui s'apparentent pratiquement à ce que faisait le Mu'tazila, qu'on le veuille ou non. Et il y a ensuite l'école malikite, et là, moi, je rappelle à beaucoup de malikites que voilà, l'imam Malik, quand Abu Ja'far al-Mansour, le calife abbasside, est venu lui dire « Fais diligence quant à former ton corpus qui s'appelle Mu'ta, et moi, je forcerai tout le monde à le suivre. » Il a dit « Non ». Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre de pratiquement 100 000 compagnons qui se sont dispersés dans les différentes contrées. Et chacun d'eux a emporté avec lui une part de son savoir. Il y a beaucoup de divergences. On ne peut pas forcer les gens à aller vers une vision. C'est ce qu'on appelle actuellement la vision unipolaire, hein, qu'on le veuille ou non. Dans l'histoire même de ce que nous appelons en langue arabe « siyasa shar'iyya », c'est-à-dire le mode de gouvernance, quand cette partie de la religion était entre les mains des fuqaha, des savants, même le qada, au niveau même du judiciaire officiel, en Irak c'était l'Ahnaf, dans la partie du Maghreb c'était le Malikiya, en Égypte c'était peut-être Shafi'iya, et ça marchait comme ça, c'était selon l'école dominante. On donnait ça pouvait être des ordonnances juridiques, qada, ça pouvait être des fatwas, c'est-à-dire des avis juridiques, et les choses n'ont jamais posé de problème pour qui que ce soit. Donc maintenant, quand vous nous parlez de référent, je suis d'accord avec vous, l'Algérie doit avoir son référent. Je suis jaloux de cette manière qu'ont les Saoudiens à gérer le culte. Vous savez, vous entrez dans une mosquée, vous ne trouverez pas de Coran selon le mode de lecture de Warsha An-Nafi'. Il y a uniquement Hafsa An-Ansim. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients que le fait qu'il y ait des modes de lecture qui diffèrent l'un de l'autre, la chose ne peut être comprise que par les spécialistes du domaine. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, moi j'ai eu un maître qui était Hanafi. Donc j'ai appris le Coran, je suis passé de Walsh à Hafs. Et quand je lisais, il y avait beaucoup de vieux qui venaient me dire, par exemple, je ne sais pas moi, vous lisez Sourat al-Jin. قلوا حيا إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي الأرجل فآمن به ولن شرك بربنا وإنه تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولدا. Alors moi quand je ne dis pas قلوا حيا, je dis قل أوحيا إليه أنه استمع نفر من وأنه تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولدا. C'est pas وإنه comme le disent les جعلها دكا في سورة الكهف, جعلها دكاء. Donc c'est, et les gens disent, attends, tu es en train de lire ça, il y a des erreurs ici. Non, ce n'est pas des erreurs, c'est un mode de lecture qui a été révélé au messager de Dieu alayhi salatu wasalam, comme l'a été révélé celui de Warsha An-Nafi'.
Mais on ne peut pas déjà fixer une lecture et puis quand on aura tout maîtrisé, on reviendrait aux autres lectures.
Ce n'est pas ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité, c'est de décharger le musulman lambda de tout ce qui pourrait venir polluer justement son esprit. Donc, un référent religieux, c'est bon, c'est bien beau, mais il ne faut pas tomber dans le piège justement de cette radicalisation qui est celle de ceux qu'on appelle les salafis, les wahhabites, les madakhila et j'en passe. Moi, quand vous me parlez de référent, l'école ash'arite, on va discuter de la chose de manière très académique. Je vais prendre ces gens qui viennent me dire « Oui, nous lions l'aqid al-ash'ariya ». Je suis d'accord avec vous et croyez-moi, c'est une école dogmatique qui nous a été plus que profitable, surtout quand on devait défendre l'islam face à différentes idées, notamment face aux évangélistes. C'est une école qui est plus malléable, qui est plus forgée que celle de ces salafis qui sont pratiquement dans l'absurde, tout simplement. C'est un raisonnement par l'absurde. Les pauvres, ils se retrouvent très très souvent dans de beaux draps parce qu'ils n'arrivent même pas à défendre leurs idéaux. Et ils n'ont pas compris que quand nous parlons de aqida, de dogme, l'important ne consiste pas à avoir une notion ou à l'intégrer dans son cerveau. L'important est de vivre cette notion. Et c'était des gens qui yabtalouna an-nas ou yamtahinounahum. Ayn Allah, si vous ne dites pas inna Allah fi as-sama, anta kafir. Mais le problème actuellement, c'est que nous avons des gens qui sont dans la mouvance Ash'ari, qui sont en train de faire le même travail vis-à-vis de ces gens-là. Quiconque dit « Inna Allah fi sama, hada hashwi, hada fu akada, hada kada » et on va commencer à le taxer. Maintenant, vous voulez parler de ce que nous appelons le terroir, c'est-à-dire l'asl, d'accord. Qu'est-ce qui était dominant avant que l'école Ash'arite ne vienne ici, dans cette partie du globe? Dans la rive sud de la Méditerranée.
Uniquement les enseignements du prophète alayhi salam.
Kanat al-aqida ala madhhab al-muhaddithin. Que vous le vouliez ou non, ça c'est une réalité. Avant l'école malikite, qu'est-ce qu'il y avait dans cette partie qui s'appelle actuellement l'Algérie? Il y avait le madhhab al-imam al-Awza'i. Il était plus savant que l'imam Malik, sauf qu'il n'avait pas de disciples. Donc ses principes n'ont pas été cristallisés, n'ont pas connu cette pérennité qui en a fait une école. Nous pouvons rester malékites. Dans le cadre du malékisme, nous avons, comme j'ai l'habitude de le dire, quelque chose comme 16 sous-écoles. Mais le problème est que moi, j'ai connu des malékites. Vous leur dites, « Qala al-Qadi Abdel Wahab, sahib al-Ma'ouna », on vous dit, « Ah non, 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 celui-là, on ne le prend pas en considération. Hein. Nous, nous préférons Bnouchès al-Maliki. » Mais ça, c'est ton problème, préfère Bnouchès al-Maliki ou autre. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me poser une question, quand il a un problème, j'essaye de lui trouver une solution. Et je me souviens d'une personnalité connue, notoire. Je me souviens un mois de Ramadan, on nous a demandé à moi et à Dr Bardouane, rahmatullahi alayh, de faire enfin une émission fatawa, etc., en langue française. Vous savez, déjà quand on m'a demandé cela, c'était comme si on m'envoyait à la guillotine. J'ai dit, mais écoutez, vous savez que j'ai horreur de ce type d'émission. Vous ne sortez pas pour ne pas employer le terme en français, comme j'ai l'habitude de l'employer. Et le problème, c'est que déjà, vous êtes en plein direct et vous recevez un appel où on vous dit « Taqullah, limada tatahaddathun billugha al-faransiya ». Mais c'est parce que c'est une émission qui est dédiée et destinée à nos frères qui vivent en Occident et qui parlent essentiellement le français. C'est pour ça que nous la faisons en français. Ensuite, on vous pose une question. Voilà, je me souviens, Bardouane a répondu et j'ai dit « Écoutez, cette réponse, bien sûr ». Elle concerne ce que nous appelons le mashhour dans l'école malékite. Parce que quand on donne un avis dans l'école malékite, vous avez une hiérarchie en termes de réponse. C'est-à-dire que vous allez commencer par donner le qawlul muttafaqu alayh, ce qui fait consensus dans l'école. Ensuite, majara bihi l'amal, ce qui fait l'usage. Et quand vous étudiez l'école malékite, vous allez vous rendre compte que depuis Bagdad ou depuis Médine jusqu'à l'Andalousie, en passant par la rive sud de la Méditerranée, l'école malékite restera l'école malékite parce qu'elle a les mêmes fondements, les mêmes principes, mais elle va changer à raison de 70%. Ensuite, vous avez Rajih, c'est-à-dire l'avis prépondérant. Ce n'est qu'en quatrième position que viendra al-mashhur, l'avis le plus répandu. Ensuite, al-qawl al-musawi li muqabilihi, c'est-à-dire que vous allez donner un avis qui se fonde ou se base sur une argumentation qui est celle d'autres avis qui sont égaux. Ensuite, ce n'est qu'après cela que vous allez vers al-qawl al-shadd, c'est-à-dire l'avis marginal. Parce que vous devez trouver une solution au problème qui se pose, et ce n'est qu'en dernier recours que vous allez vers ce que nous appelons « ad-da'if », c'est-à-dire un avis faible, qui peut-être se base sur un hadith faible ou sur une argumentation faible.
Alors, donc, consensus, ce qui fait l'usage, l'avis prépondérant, le mashhour, donc l'avis le plus répandu, le cinquième.
L'avis qui est à la hauteur d'autres avis se basant sur une argumentation, on va dire, en termes d'argumentation, on l'appelle qawlul musawi li muqabilihi. Ce n'est qu'après que vient shad ou bien daif. Vous savez, quand vous parlez d'avis shad, ra'yun shad. Je vais vous donner un avis. Quand on étudie l'école malékite, il faut étudier ces avis marginaux qui vous mettent dans un état terrible. Ça provoque carrément une panne au niveau du cerveau.
Mais d'où sont-ils sortis? Oui, sont-ils puisés?
Vous avez quelqu'un, il y a un grand savant malékite qui s'appelle Ibn Sha'ban. C'était un spécialiste des avis marginaux. Par exemple, il disait pour la prière du vendredi, on a le droit de faire ses ablutions avec de l'eau de rose. Pourquoi ? Parce que c'est un jour qui a beaucoup de mérite. La prière du vendredi est une prière obligatoire qui est hautement
intéressante. Ça fait partie.
Et vous savez, non mais il y a mieux que ça. Ce fameux hadith que vous devez utiliser, man la riha lahu wa la launa lahu wa la ta'ama lahu, etc. Ce hadith, ce n'est pas une règle absolue. Donc lui, il va vous présenter une argumentation, sauf qu'on la considère comme étant marginale. Donc c'est tout ça que vous allez devoir prendre en considération. Et les nôtres, ils sont là pour vous dire non. On prend le Mudawana, ensuite on prend Metn al-Risala, Mukhtasar Khalil, etc. Et on sort pas d'ici. Mais attendez, l'école malékite, elle est plus vaste, elle est plus importante. Et pour preuve, toute cette école malékite, Vous avez des malékites qui sont beaucoup plus proches de l'école chafi'ite que de l'école malékite en termes d'avis. Vous avez des malékites qui étaient presque des hanbalites et c'est ce qui a fait la richesse de cette école. Ibn Taymiyyah est un savant hanbalite. 60% de ses avis religieux sont conformes à l'école malékite. Pourquoi Ibn Taymiyyah, quand il est conforme à l'école malékite, il est bon, quand il ne l'est pas, non, il faut le mettre de côté, il faut l'ignorer, il faut l'oublier.
Mais avec tout ça, Kamal Shkat, kullun min rasulillahi multamisun.
C'est clair.
Et pourtant, on a cette injonction du prophète alayhi salatu wasalam qui nous exhorte à ne pas rendre le culte difficile.
Difficile.
Et détestable à son âme surtout.
Oui. Ensuite, quand on arrive au troisième point de ce triptyque, il y a le tasawwuf. On parle de Junayd Salik. Tout le monde est d'accord sur cela. Vous pouvez le dire, hein, 60% du mouvement soufi est un mouvement dévoyé.
Waouh, c'est fort, Kamal Shkat,
oui,
70%.
60% à l'aise.
60%. Toute tariqa confondue.
Oui, vous trouverez.
En Algérie, dans le monde.
Dans le monde entier. Dans le monde musulman.
En Algérie, Kamal Shkat.
Oui, c'est la même chose.
Mais c'est grave ce que
vous
dites.
Oui, non, ça n'est pas grave. Je ne jette ni pavé ni rien du tout. Tout le monde le sait. Tasawuf nawaan, tasawufun mahmoudun wa tasawufun madmoum. Depuis que l'éducation spirituelle.
Oui.
Et donc, là, actuellement, vous n'avez pas remarqué que voilà, il y a des gens qui veulent faire d'Ibn Arabi l'icône par excellence du soufisme. Il peut pas l'être. Il ne peut pas l'être dans la mesure où ce que propose Ibn Arabi est plus que sophistiqué. Je suis désolé, moi-même j'arrive pas à comprendre Ibn Arabi. Alors là, surtout ceux qui sont en train de faire, on peut pas donner de nom malheureusement, mais bon, vous le trouverez sur internet, quelqu'un que j'accuse de faire de la prostitution religieuse. Il passe son temps à parler d'Ibn Arabi, l'imam l'Adam, l'imam l'Akbar, et j'en passe. Le type, il est même pas capable de faire, comme on dit, Jumla Mufida. Et il vous dit, non, moi, j'arrive à comprendre Ibn Arabi. Ah bon? Avec quoi? Moi, c'est par le cœur que je le comprends. Et puis, tous ceux qui comprennent Ibn Arabi vont venir vous dire, oui, tu sais, maintenant, nous savons que, finalement, nous irons tous au paradis et que cette prière, tous ces gestes, toutes ces gestuelles, elle n'est pas importante. Ah bon?
Ce ne sont pas les propos d'Ibn Arabi.
D'Ibn Arabi.
Je suis désolé.
Et pourtant, beaucoup lui imputent cela.
Ouais.
C'est
ceux qui veulent Kamal Shkat avoir toutes les faveurs de l'Occident qui pourraient aller dans certaines lectures ta'wilat.
C'est ce qu'on appelle la prostitution religieuse.
Sinon, l'émirat Abdelkader ne l'aurait pas suivi, sinon René Guénon ne
suivi. Qu'est-ce que j'ai dit? Souvenez-vous.
Cheikh Tidjani ne l'aurait pas suivi.
C'est à chaque fois j'ai dit ça. Quand je lis Ibn Arabi, ça me provoque carrément une paralysie du cerveau au bout de la 15e, 20e page. Mais quand je vois des produits comme Guénon ou bien les Amir Abdelkader, je me dis, attends, c'est toi qui n'as pas compris. Ça s'arrête là.
J'ai lu du Ibn Arabi Kamal Shkat et c'est à la portée de tout le monde.
Non,
il y a juste des paliers Kamal Shkat. Il y a des paliers, il faut que vous soyez accompagné par un shir.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Ouais.
Sinon, vous ne pourrez jamais. Même, j'ai connu des maîtres qui m'ont dit, écoute, ça serait bien d'avoir des livres d'Ibn Arabi à ton niveau. Mais ne t'amuse jamais à les lire tout seul.
Ouais, exactement.
Vous voyez, donc c'est des écrits qui doivent s'accompagner d'expériences mystiques.
Comment comprendre Kamal Shkat? Absolument.
Donc le problème est là. Pour revenir à l'aspect pratique de tout cela, le référent religieux.
Avant l'aspect pratique, quelqu'un comme Sid Ahmed Tijani qui vous dit إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرف فإن وافق فاعملوا به وإن خالف فاتركوه.
C'est ça.
Ou un Alawi ou un autre de la Qadiriyya.
Beaucoup ont dit cela. Cheikh Ben Ali il était à la hauteur. Beaucoup de Alawi ne le sont pas. Donc, Cheikh Tijani, c'est la même chose. Vous trouverez beaucoup de Tijani qui ne le sont pas.
Oui, Qadiriyya, les descendants de l'émir Abdelkader.
Oui, tout le problème est là. Quand il y a eu la pandémie du coronavirus, au niveau même du ministère des Affaires religieuses, l'Ejnat al-Fatwa qui était là, elle s'est efforcée de rester dans ce référent religieux qui est celui de l'école malékite.
Un excellent travail a été apporté durant cette période-là.
Ils ont mis à contribution des avis de grandes icônes de l'école malékite qui sont mises de côté par beaucoup de cheikhs. Oui, non, mais attends, c'est pas M. Adawal M. Chouhour. Non, nous sommes dans une autre vision. Mais attendez, Ibn Habib, pourquoi vous ne voulez jamais en entendre parler? C'est pas normal.
Mais l'être humain dans tout ça, Kamal Shekat.
Le Qadi Abdel Wahhab aussi. Hein? Pourquoi vous voulez le bannir de cette école? Pourtant, c'est une icône dans l'école malikite.
Parce qu'il prône la facilité?
Non, c'est pas une question de facilité.
Non, parce qu'on a cette attitude, Kamal Shekat, dès qu'on a une fatwa qui va vers la facilité et l'aisance pour l'être humain.
Vous savez.
Non, ça ne peut pas être ça.
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la divergence, qu'est-ce qu'il dit? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Ils ne cessent d'être divergents entre eux. Il dit, illa man rahima rabbuk, sauf ceux que Dieu, que ton Seigneur a couvert de sa miséricorde. C'est après cela, illa man rahima rabbuk, c'est après cela qu'il dit, walidalika khalaqahum. Et c'est pour cela qu'il les a créés.
Pour
qu'ils soient miséricordieux les uns envers les autres. Ça veut dire que, quand vous prenez un musulman, que vous l'entraîniez à la divergence, à la diversité, vous allez mettre en action des parties du cerveau qui vont justement faciliter ce travail. Et quand le verset vous dit walidalika khalaqahum, ça veut dire que ceux qui font travailler le cortex singulaire ou bien le cortex même préfrontal, quand ce sont ces zones-là qui travaillent, vous allez développer ce qu'on appelle ta'atuful ma'rifi, c'est-à-dire l'empathie cognitive. Les premiers musulmans, ils avaient ça. Comment expliquer que quelqu'un comme l'imam Shafi'i vienne vous dire je ne me suis jamais opposé dans un débat à quelqu'un sans prier Dieu que la vérité soit de son côté. Pourquoi? Parce qu'il a, c'est cette conscience dont on parlait en début d'émission, la conscience de Dieu, la conscience du temps que je suis en train de passer sur terre. Plus je suis conscient de cela, plus j'aurai envie de me décharger de toute responsabilité vis-à-vis des autres. Ce qui me fait rappeler des propos de la Cheikh Al-Bouti rahmatullahi alayhi, qui a dit, écoutez, je peux tout accepter, sauf le fait d'être...
Devenir le jour de la résurrection, portant sur ses épaules les
crimes d'autrui. Des gens qui auraient agi parce que voilà, nous sommes des adeptes de Cheikh Al-Bouti. Illa an alqa Allah ala bi jama'a ou bien ala ra'si jama'a. Je veux pas être représentant d'un groupe. C'est le référent religieux. Il est bon, à condition de ne pas devenir source de discorde.
Kamal Shekat, nous arrivons au terme de cette émission d'aujourd'hui sans avoir évoqué un dernier segment, d'ailleurs, que vous avez cité au moins deux fois. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si vous voulez, on y reviendra la semaine prochaine.
De toute manière, vous savez, ça me rappelle un conseil qu'a donné une vieille personne à un ami. C'était un enterrement. Et au moment de quitter le cimetière, le vieil homme, doué de sagesse, somme toute faite, se tourne vers mon ami et lui dit « Actuel nas adoule ramana, wahd fi ummak mel shoghlo ». Et donc nous ne terminerons jamais, nous ne ferons qu'effleurer les choses. Et bon, c'est tant mieux déjà, le fait de pouvoir le faire, c'est
Merci
une bonne chose.
Merci de me le rappeler, Kamal Shekat, mais on peut se donner un autre rendez-vous
oui,
la semaine prochaine
bien sûr.
Revenir sur les beaux noms de Dieu,
Inch'Allah.
Comment les maîtriser. Kamal Shekat, je terminerai l'émission d'aujourd'hui avec un hadith Qudsi. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. Et dans un autre il dit وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما.
Absolument. La subsistance, c'est ça, c'est une règle.
Soit vous croyez. Je t'ai créé pour moi, et j'ai créé les choses pour toi. Ne corromps pas ce que j'ai créé pour moi, parce que j'ai créé pour toi.
Oui.
C'est ça.
Et les gens, généralement, il faut comprendre que voilà, nous n'aurons que la subsistance qui nous a été promise. Ceux qui veulent sortir de ce cadre, eh ben, ils passeront leur vie à courir, comme le dit cette « rakd al-wuhush », c'est-à-dire de manière effrénée. et vous n'arriverez jamais à avoir que ce que Dieu voudra pour vous.
C'est pour ça que quelqu'un avait dit, en synthétisant ce hadith qudusi, وَيَجْهَدُ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا مُنَافَسَةً وَلَيْسَ لِلنَّاسِ شَيْءٌ غَيْرَ مَا رُزِقُوا.
Absolument. C'est-à-dire que vous pouvez vous concurrencer les uns les autres pour avoir ce que vous voulez, mais en définitive, vous n'aurez que ce qui vous a été promis en termes de subsistance.
Donc travailler sur ce rizq et comment l'avoir entier.
Absolument. Surtout par les moyens licites.
Surtout.
Rizq al-halal.
Rabbi tibetna al-halal.
Amin.
Je vous remercie Kamel Chikat, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mazal, on vous dira pas encore Saha Aïd Com, ce sera dans l'émission du vendredi prochain. Bon week-end à tous et au revoir.